Au prisme de l'interdisciplinarité est un podcast imaginé et proposé par l'équipe doctorale de l'UMR 70-61 Prisme. Perception, représentation, images, son et musique.
Venez avec nous découvrir les profils des chercheurs qui y sont associés, leurs travaux et leur regard sur ce qui fait la particularité et la richesse de notre laboratoire. Interdisciplinarité, utopie ou actuelle nécessité.
Bonjour Joséphine Simoneau. Tu es ingénieure de recherche au sein du laboratoire PRISM, responsable de la valorisation des recherches, diplômée de l'École nationale Louis Lumière en cinéma, option son, ainsi qu'en musicologie à l'Université Paris-Sorbonne. Tu as une longue expérience en matière de gestion, de partage et de valorisation des données audiovisuelles. Au sein du laboratoire, tu travailles actuellement sur différents projets nationaux et internationaux liés aux archives sonores, que ce soit DECOCEAS ou Archives Vivantes. Alors bonjour Joséphine, peux-tu te présenter avec tes mots et nous expliquer ce qui, dans ton parcours, a été fondamental ou déterminant, comme par exemple un article, une découverte, une intuition ou une rencontre ?
Alors moi, la découverte de la recherche, ça s'est fait en fait sur le terrain, parce que je suis partie sur le terrain avec une ancienne camarade d'université que j'avais rencontrée en musicologie, et je suis partie faire des enregistrements en Indonésie, dans l'Est indonésien. Mais comment je suis arrivée là ? Eh bien, en fait, j'ai beaucoup pratiqué la musique dans toute mon enfance. Je passais la plupart de mon temps libre au conservatoire. Et j'étais aussi attirée par la physique. J'aimais bien le son, l'acoustique. J'ai découvert ça en classe de première. Cours de vibrations, les fréquences, ça me parlait beaucoup. Et j'hésitais entre une carrière scientifique et une carrière musicale. Et une fois passé mon bac, ou plutôt en préparant mon bac, je me suis renseignée sur les formations parce que j'étais attirée par la musique au cinéma. La musique évoquait pour moi des émotions, des images, et j'aurais adoré faire la musique ou du son pour le cinéma. Donc je me suis renseignée et j'ai découvert l'école Louis Lumière à Paris. J'ai passé le concours, j'ai énormément travaillé évidemment, et j'ai réussi à rentrer dans cette école parce que je voulais une pratique technique du son, puisque le son c'est avant tout de la technique. Et je voulais une formation vraiment solide techniquement. Donc là-dessus, je n'ai pas été déçue. Et après Louis Lumière, j'ai fait des études en musicologie à la Sorbonne, puisqu'il y avait une première rencontre importante. C'était un prof d'acoustique musicale qui nous faisait cours à Louis Lumière, qui m'a donné envie de continuer en musicologie.
C'est vraiment une histoire de toucher, parce qu'on ne voit pas forcément, mais par contre, on le sent vite.
Sabbia de Romero era.
Ensuite, j'ai vite compris que travailler dans le cinéma, c'était extrêmement dur. Il fallait vraiment se battre pour faire sa place. Donc, j'ai été plus attirée par l'enregistrement de disques. Donc, j'ai au début travaillé dans le disque classique, prise de son, mastering, montage, beaucoup de montage. Donc là, j'ai formé mon oreille en plus de ce que j'avais appris à l'école, parce que je pense que le plus important, pour être ingénieur du son, c'est vraiment la formation de l'oreille, en plus des techniques, évidemment. Et j'ai travaillé donc dans le disque, et puis après aussi en télévision, radio, tournage de documentaires sur la musique. Et j'ai eu l'occasion de partir donc sur le terrain, parce qu'en musicologie, on faisait aussi de l'ethnomusicologie, et ça m'a extrêmement attirée. Et j'ai été contactée par une ancienne camarade, donc, qui était en train de faire un master en ethnomusicologie, de partir en Indonésie sur le terrain avec du matériel professionnel, des bons micros, panneaux solaires et tout. Et on est allé vraiment sur le terrain, c'est-à-dire dans des petites îles perdues au fond de l'Indonésie. Ça a été une expérience très très forte. Et puis voilà, je suis passée à autre chose, parce qu'évidemment, travailler dans ce secteur, c'était quand même compliqué. Il n'y a pas beaucoup de débouchés. Et puis un jour, j'ai été contactée pour rentrer au CNRS, de présenter le concours pour être ingénieur du son, et enfin audiovisuel, on va dire, parce que je devais aussi m'occuper de vidéo, laboratoire d'ethnomusicologie du CNRS, situé au Musée de l'Homme. Voilà, donc j'ai travaillé une vingtaine d'années dans ce laboratoire, ça a été extrêmement riche. Et puis, j'ai appris plein de nouveaux métiers, en fait. C'est ce qui est dans la recherche, il faut être extrêmement polyvalent. Et évidemment, la vidéo, le montage vidéo, mais aussi les bases de données. Et je me suis engouffrée dans ce domaine de constituer des bases de données sonores, musicales, sur le web, avec des outils adaptés. Et ça a été une espèce de boule de neige, ça m'a entraîné vers plein de projets de recherche sur l'analyse des données, la visualisation des données, la perception aussi, le mélange à la fois de données documentaires, de données sonores, tout ça pour aboutir sur une grosse base de données, la plus grosse base de données de musique traditionnelle qui soit disponible en ligne aujourd'hui, qui est donc gérée par le CNRS. Ça a débouché sur des projets européens, sur des projets ANR, avec des laboratoires d'analyse du signal, donc ce qu'on appelle les sciences dures. Et là, j'ai découvert vraiment l'interdisciplinarité, qui est extrêmement, extrêmement complexe, parce que dans chaque domaine scientifique, il y a un jargon spécifique, il y a un langage spécifique, il y a des notions spécifiques, il y a des approches spécifiques. Et faire coïncider tout ça, c'est un défi quotidien. Parce que, tout simplement, première chose qu'on constate, c'est que les gens n'utilisent pas les mots dans le même sens, avec le même sens. Donc chaque terme, que ce soit, je ne sais pas, le ton, la musique, le timbre, une vibration, tout ça est perçu différemment, oui, suivant les disciplines.
Et sujet toujours à des grands débats sans fin.
Voilà. Donc c'est ça qui est passionnant, parce que ce qui est formidable, c'est de pouvoir prendre en compte tous les points de vue et d'être aussi un peu l'interface. Parce que moi, ayant un profil un petit peu mixte, je suis en mesure d'aider ce dialogue, et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc ça m'est arrivé dans des projets ANR, et puis à Prism aussi, où je suis recrutée ici depuis ce laboratoire à Marseille depuis 2 ans et demi. Et là, évidemment, tout le fondement de cette équipe, c'est de travailler l'interdisciplinarité entre les acousticiens, les musicologues, les créateurs. Donc c'est une approche résolument interdisciplinaire qu'il faut mettre en œuvre. Et évidemment, ce sont aussi des défis complexes qui demandent une grande ouverture d'esprit, une grande écoute de l'autre. Non, c'est vraiment le cas de le dire, d'écouter sa conception, sa démarche scientifique, qui sont vraiment très différentes d'une discipline à l'autre. Et comme ben, moi, j'ai un peu des sciences humaines, donc j'ai vécu vraiment ces problèmes-là de manière très, très forte, parce que y a une espèce de à la fois d'incompréhension et presque, je dirais, de méfiance. Les gens sont un peu, quand ils ne maîtrisent pas une discipline, ils sont sur la défensive et ça n'aide pas le dialogue. Voilà, pour simplifier, pour raccourcir les problèmes, pour résumer ce que moi je perçois de ce travail de dialogue entre les disciplines et de travail commun sur un sujet avec des approches disciplinaires différentes. Voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, je l'ai vécu.
Mais tu m'offres une très bonne transition et tu as même commencé à répondre à ma prochaine question. Quelle est ta vision plus globale ou ton approche de l'interdisciplinarité et comment elle se développe au sein du laboratoire PRISME ?
Alors, elle se développe à travers des projets communs où on essaye de convoquer des personnes de différents horizons. Alors, je ne vais pas faire le détail de tous les projets qui sont appris, il y en a beaucoup. Et évidemment, il y a des tendances plus, on va dire, acoustiques, des tendances plus axées sur la musique et la création. Mais c'est, je pense, ça ne se décrète pas, l'interdisciplinarité, ça se vit. Et il faut le vivre par des projets et en tenant compte de cette difficulté de dialogue et d'échange et de vocabulaire. Et dans mon expérience passée de projet interdisciplinaire, la première chose, c'est de faire des lexiques pour se comprendre, pour comprendre de quoi on parle. Alors, c'est un travail énorme, parce qu'on commence à prendre des termes techniques, à faire des définitions qui soient compréhensibles par tout le monde, par des non-spécialistes. C'est vraiment un travail en soi qui est un peu fastidieux. Mais pour moi, c'est un point de départ. Voilà, c'est un point de départ. On a discuté à Prisme d'étudier des mots de vocabulaire comme ça et de s'y pencher pour comprendre de quoi on parle. Ouais. Pour moi, c'est un point de départ. Alors, j'en ai sûrement d'autres, mais...
Oui, voilà. Ça évite des guerres inutiles autour de certains concepts qui sont...
ou les quiproquos, oui, au final, qui amènent à des conflits juste parce qu'on s'est mal compris ou parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose, au final.
Exactement.
C'est le premier animal qui va entendre, surtout quand il entend dans le ventre.
Sosta talor d'una mani di bonura. Aiutro un nido chi drento c'è tuo. È un nido di colomba già tre volte l'aiutro. O colomba una ratta quanto è lunga sta nuotata. Sì, c'è la mamma, famosa in Galilea, quella sua voce più dolce che la mia.
Un consiglio, mamma, di...
Nietta zitta, dormintaia, ma ti dormo una più dia. Cor di mamma e di mia nanna, biu biu e fa la nanna.
Le son est important et emmène à une espèce de méditation, donc il faut être consciente du son. conscient de ne pas trop partir pour justement pas éviter le danger. C'est très très important, c'est très religieux.
Donc un projet qui s'appelle Corsica Sud Archives avec Christine Esclapez, où on essaye de mettre en œuvre un protocole basé sur les données patrimoniales de la Corse, sonore, la musique corse qui est sur une base de données, la création musicale, puisqu'on a convoqué des créateurs, des musiciens corses pour créer quelque chose de nouveau à partir de leur propre patrimoine oral, et aussi une valorisation sur le terrain grâce à des clés ou des pastilles sonores dans le village, où on a travaillé, pour faire un parcours sonore avec une artiste qui s'appelle Caroline Boé, qui a fait un parcours sonore à base d'archives musicales, de sons, d'ambiance dans les ateliers des artisans du village, et des entretiens qu'elle a pu faire, donc pour créer, pour en quelque sorte matérialiser ce patrimoine immatériel au cours d'un parcours sonore dans un village. Donc c'est un protocole qu'on a mis en place, qu'on a expérimenté, qu'on a déposé dans une société de transfert technologique qui nous soutient, qu'on va essayer de transposer dans d'autres lieux de la Méditerranée, parce qu'on s'est rendu compte que dans un milieu insulaire, il y avait parfois un patrimoine très riche et souvent très mal connu, mal valorisé, avec des structures évidemment très limitées sur des petits territoires. Et donc nous, notre rôle, c'est de provoquer des événements musicaux, de la prise en compte et de la découverte d'un patrimoine souvent peu visible, pour stimuler la création, pour stimuler l'activité, y compris touristique, économique, autour d'un petit, un petit lieu, un petit patrimoine.
Beau projet.
Voilà, et c'est vrai qu'au début, on nous a regardé un peu en rigolant, on nous a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de mélanger à la fois recherche, archives sonores, création, est-ce que vous n'êtes pas ethnomusicologue, vous ne connaissez pas la Corse. Et en fait, le fait justement d'avoir un regard neutre, ça a été en fait un grand atout pour approcher les acteurs locaux. On n'avait pas d'étiquette ni scientifique, ni politique. On arrivait un petit peu en candide. Et ça a permis de faire... que les gens se parlent plus facilement, que ce soit des artistes, des chercheurs, des archivistes qui sont souvent enfermés dans leur tour d'ivoire. Je ne m'étalerai pas sur les questions. Et en fait, tout s'est passé très facilement et on a été extrêmement bien acceptés, bien reçus, et on a pu débloquer des verrous qui étaient là depuis des dizaines d'années, et les choses se sont décantées, les archives se sont ouvertes, et ont permis de trouver un chemin un peu plus lisible pour les amateurs, pour les artistes, pour les créateurs, pour les chercheurs aussi, les étudiants. Voilà.
Oui, oui, on voit là le dynamisme que ça peut apporter d'un point de vue touristique, effectivement. Et, donc c'est...
Voilà, parce qu'on a des attentes très fortes sur les retombées sociétales.
Oui, j'imagine.
De plus en plus fortes, donc moi je trouve ça très bien. Mais le problème, c'est de trouver un intérêt commun entre les chercheurs, les acteurs locaux, justement, et les artistes, pour que tout le monde y trouve son compte. C'est sûr qu'un chercheur, son objectif, c'est de publier des articles, de marquer son travail de recherche, et pas toujours de prendre en compte les retombées sur le terrain, les retombées économiques ou sociétales, culturelles. Mais nous, on a la chance d'être quand même dans un domaine qui permet un transfert, je dirais, sociétal qui est possible. Mais il faut faire cet effort de se mettre un peu dans la peau des gens qui ne sont pas forcément des chercheurs. Et c'est vrai que ça aussi, ce n'est pas de la plus interdisciplinarité, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui intersectoriel, qui nous est demandé au niveau de nos tutelles, et je dirais même jusqu'à la Cour des comptes, qui veut bien financer avec de l'argent public des recherches en sciences humaines et autres, mais il faut qu'il y ait des retombées, il faut qu'il y ait qu'on justifie ces financements par des choses concrètes, entre guillemets, des retombées sur le public, et ça c'est de plus en plus encouragé, donc il faut en tenir compte, et je trouve ça très bien.
Est-ce que tu veux nous parler d'un autre projet Donc là, on était plutôt sur les archives, dans ce que tu nous as présenté. Donc est-ce que tu aurais un autre projet peut-être à nous présenter ou pas forcément?
Alors il y a aussi un projet qui m'occupe en ce moment, c'est la valorisation ou la sauvegarde d'un patrimoine vraiment spécifique au laboratoire PRISM, qui sont les archives de Jean-Claude Risset, qui a été le fondateur de ce laboratoire, qui était compositeur et chercheur en acoustique, directeur de recherche au CNRS. Et on a un patrimoine assez, très très riche, qui je ne sais pas combien de milliers de partitions, de documents divers, papiers. Et il y a une collaboration avec l'INA pour archiver ce patrimoine, le rendre accessible. Et donc, on a attaqué ce chantier, parce qu'on peut parler de chantier, énormément de données à traiter, à numériser, et on espère pouvoir les rendre accessibles pour qu'après il y ait un accès cohérent entre les données audiovisuelles et les données visuelles qui sont très demandées par des chercheurs, notamment l'étranger, parce qu'il a aussi travaillé aux États-Unis.
Et est-ce que tu as un petit mot pour la fin, peut-être?
Eh bien, je dirais que le métier d'ingénieur de recherche est plein de découvertes, plein d'occasions de travailler avec des gens passionnants. Le son, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître abstrait pour beaucoup de monde, mais... dans ce laboratoire, justement, on peut approcher le son sous différents aspects, et ça, je trouve que c'est évidemment ça m'intéresse, et qu'il y a énormément de choses à faire dans ce domaine. Donc, la porte est ouverte à plein d'idées, et on compte sur les jeunes pour continuer les innovations, les idées, les recherches et j'espère que mon expérience peut être utile dans cette démarche.
Merci beaucoup Joséphine pour cette présentation de tous tes travaux et de ta vision d'interdisciplinarité et de ton parcours qui est riche. et passionnant à découvrir.
Merci, au revoir.
Vous venez d'entendre le podcast Au prisme de l'interdisciplinarité, réalisé par l'action doctorale du laboratoire Perception, Représentation, Images, Sons et Musique, UMR 7061 du CNRS de Marseille.